Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène au voyage. Aujourd'hui, c'est Suzanne au micro et je t'emmène en Mongolie, ou peut-être un petit peu autour, avec Mickaël Elfati. Bonjour Mickaël, comment tu vas?
Salut Suzanne, ça va au top.
Si tu me permets, je vais faire une petite introduction. Mickaël, on se connaît personnellement. D'ailleurs, tu es en face de moi, en chair et en os aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que je connais l'auteur, l'illustrateur, enfin un petit peu, le papa, l'ami, mais je connais pas encore l'aventurier, le voyageur qui sommeille en toi. En fait, on s'est jamais vraiment posé pour parler de tes voyages. J'ai eu des bribes d'anecdotes, je sais ce qui se cache derrière, mais on n'a jamais pris le temps. Et la semaine, pas la semaine dernière du tout, il y a environ 3 semaines, tu viens à la maison et tu parles d'un projet sur lequel tu es en train de travailler. Et je me dis, Mickaël, il faut que tu... Enfin, je te dis, il faut que tu fasses un podcast, que tu racontes ces histoires. Et je pensais pas que je me retrouverais derrière ce micro, mais je trouve ça trop rigolo. Et je suis ravie parce que je vais enfin pouvoir tout savoir de ton aventure en Mongolie. Ou presque.
Tu sauras tout.
Yes. Alors maintenant que j'ai fait l'introduction, est-ce que tu peux nous replacer le contexte? On est en quelle année quand tu as fait ce voyage?
On est en 2010 et on fait un petit bond en arrière et je viens de changer de vie. Okay. J'ai quitté ma nana, ma ville et mon boulot. Okay. Et je décide de démarrer une vie de voyageur.
Okay.
J'ai eu une première petite expérience au Népal, dans l'Himalaya, et je me suis dit, tiens, allez, j'aime bien la marche, on va essayer d'aller un peu plus loin, de découvrir plus de choses. Et j'écris un projet d'aventure pour aller en Mongolie.
Alors, comment ça t'écris un projet d'aventure?
J'écris alors d'abord un projet de sponsoring, parce que j'ai été sponsorisé par la Guilde Européenne du Raid pour faire ce voyage, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu d'argent pour payer tout le matos que j'ai dû acheter, et il y en a eu. Et puis ça m'a permis aussi de mettre à plat les choses que j'avais envie de faire.
Ok, alors juste t'avais quel âge à cette époque? C'est pas pour remuer le couteau dans
oui,
la plaie.
Oui, non, mais j'ai bien compris, j'étais un vieux.
T'avais quel âge?
Un petit 28 ans.
Ok. Ok, ça va. T'étais
pas
un minot.
J'étais un jeune vieux.
Ok. Ouais. Donc, tu t'écris ton projet. Donc, il y avait quand même un itinéraire qui était tracé. Il y avait un but. Pourquoi tu partais?
Alors, j'écris le projet et ça, c'est intéressant parce que par la suite, pendant le voyage, je me suis dit, t'as vraiment écrit n'importe quoi.
Okay.
Mais ça fait partie du délire un petit peu de s'écrire des objectifs.
Ouais.
Puis après, on comprend vite que c'est...
Moi aussi, je fais des to-do list.
T'as vu? Ça marche jamais. Et alors, je suis parti pour une certaine raison, en tout cas celle que je pensais être la vraie. Et j'ai découvert qu'en réalité, elle était un petit peu différente. L'idée, c'était, et c'était l'objet de mon projet de sponsoring, c'était partir en Mongolie et m'adapter à plein de milieux naturels différents en étant un gros naze, en ne sachant rien faire.
Et il y a des gens qui ont payé pour ça.
Et il y a des gens qui m'ont fait confiance et je comprends toujours pas pourquoi. À leur place, jamais, jamais, j'aurais sponsorisé un gars pareil. Mais ça a marché et j'avais choisi la Mongolie justement parce que c'est un pays qui regroupait un certain nombre de difficultés.
Ok.
Il y avait un certain nombre de choses auxquelles j'allais devoir m'adapter. Traverser un désert, des hautes montagnes, des rivières gelées. J'allais devoir m'adapter au froid, qui est un milieu assez particulier. Mmh. J'allais devoir acheter un cheval. J'étais jamais monté à cheval. Donc, il y avait tout un tas de petites choses intéressantes qui laissaient entrevoir quelques aventures.
Ok, très bien. Et en termes vraiment, tu dis que tu avais fait un premier voyage au Népal, c'est pas rien quand même. Est-ce que tu avais concrètement des outils? Est-ce que tu savais survivre dans la nature? Est-ce que tu avais déjà un petit peu d'expérience.
Alors non, j'étais un gros naze.
Le calut, donc.
Non, l'Himalaya, ça m'a permis de comprendre que j'adorais marcher,
okay.
Que j'adorais traverser des montagnes, et que dans les situations un petit peu difficiles, je perdais pas complètement mon sang-froid. Voilà.
Important.
Ouais. Ouais, important, ça m'a servi par la suite. Mais voilà, il y a eu un jour, je me suis un petit peu paumé dans une tempête de neige et ça aurait pu un peu mal finir. Et ça s'est plutôt bien fini. J'ai retrouvé l'endroit où je voulais dormir et j'ai pas plus paniqué que ça.
Voilà. Ok.
Voilà. Et donc, ensuite, j'ai eu envie de voir si dans des situations un petit peu plus complexes, encore que celle-ci, j'allais paniquer. C'est arrivé.
On a hâte de savoir. Et juste par rapport au projet, est-ce que toi tu disais j'ai envie de faire ça pour un but professionnel derrière, ou est-ce que tu avais déjà l'idée, est-ce que à l'époque t'écrivais déjà, est-ce que c'était déjà quelque chose que est-ce que tu savais que ça allait te servir à quelque chose?
Alors à cette époque-là, je travaillais dans les films d'animation, les effets spéciaux, j'écrivais des petites choses, mais rien de concret. Je pouvais avoir un espèce de fantasme de vie d'aventurier. J'étais bercé par les histoires de Mike Horn, Jean-Louis Etienne et tous les copains. et ça a été uniquement ça. Tu me demandais ma préparation tout à l'heure. Ça a été ça, ma vraie préparation. Ça a été une préparation purement théorique. Donc j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup servi. Notamment un bouquin de Mike Horn où il traverse des grandes régions arctiques et où il m'a appris pas mal de petites choses sur la traversée de surfaces gelées. Mais pour revenir à mes désirs professionnels, j'ai jamais vraiment eu de grands objectifs sur la question.
On y va, on réfléchit après.
Ouais, c'était ça. Et surtout en Mongolie, l'idée c'était de grandir. C'est ce que j'ai découvert par la suite. De nombreuses années après, c'est que pour moi, ce voyage, ça avait vraiment été une espèce d'éducation. Voilà, comment devenir adulte. Et il y a pas mal de tribus ou de communautés dans lesquelles il y a un passage à l'âge adulte qui est très nettement marqué. Chez nous, on n'a pas forcément ça. On passe des études au boulot. Et moi, je trouve ça assez important d'avoir cette petite transition. Et pour moi, cette transition, c'était combattre toutes mes peurs.
Ok.
Et c'est pas que j'étais particulièrement peureux, mais j'ai des peurs comme à peu près n'importe qui. Et à ce moment-là, je les assumais. Et donc, ça pouvait être... bon, on va en parler de toute façon.
Ouais, j'espère que tu vas revenir dessus quand même.
Il y en aura plein.
C'est drôle que tu parles de grandir. Pendant mes voyages, c'était un truc qu'on se disait tout le temps avec mes partenaires de voyage. En fait, ça devrait être obligatoire. Nous bassinez pas avec... je passe mes idées aussi, mais... nous bassinez pas avec les études supérieures. Faites-nous voyager. Oblige-nous à voyager un petit coup. Comme ça, on saura ce qu'on veut faire de notre vie. On saura qui on est, où on veut aller. Je suis d'accord avec toi. Donc, t'as 28 ans. Il serait bientôt temps que tu grandisses.
C'est ça.
Tu décides de partir. Comment tu fais? Tu prends un avion
Alors, je prends un avion jusqu'à Irkoutsk, qui est une petite ville au bord du Baïkal. J'y vais avec ma compagne. On passe 15 jours charmants et bucoliques sur une petite île qui est dans le Baïkal, qui s'appelle l'île d'Olkhon. On s'amuse bien.
Alors, le Baïkal, c'est le plus grand lac, c'est ça? C'est le plus grand lac du...
Alors, d'Europe. Il y a des lacs au Canada qui sont plus grands. Par contre, c'est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Parce qu'il
est
très profond.
Et il est en Russie.
Et il est en Russie. Il est à environ 300 km de la frontière mongole. Quelque chose comme ça.
Ok. Et tu avais décidé d'aller là-bas parce que tu voulais le voir en passant? Ou pourquoi tu n'as pas pris un vol directement pour la... Pour la capitale?
Parce que je voulais me rajouter des difficultés et que ce lac-là, il me bottait bien. Et en plus, je vous ai dit que j'avais écrit mon projet avant. J'avais écrit absolument n'importe quoi parce que j'avais prévu de le traverser en canoë ou en canot tout court. Mmh. Et quand j'ai vu le lac, je me suis dit, ouais, non, on va éviter. Non, c'est une idée pourrie. Surtout que le seul canot que j'ai trouvé, c'est un petit canot pour enfants. Donc avec mes deux petits drames, et quand j'en ai parlé au vendeur, il m'a dit « Ouais, non, on traverse pas le lac avec ça. » Donc, ouais.
Pardon, mais là, t'étais en été, en fait. Ce lac, il est gelé en hiver.
Ouais, là, j'étais là, en été, il fait plutôt 25-30 degrés. Okay. Bon, l'eau est congelée, hein. Elle est à un petit 6, 7, 8 degrés dans les grands jours. Mais ouais, on est au mois de juillet, là. Et donc, je passe 15 jours de vacances au bord du Baïkal. Et puis.
Et là, t'es accompagné, pardon.
Là, je suis accompagné de ma compagne, qui est ma chérie actuelle, okay, hein, la mère de mes enfants.
Boulette.
Tout va bien, t'inquiète pas.
Ok, donc on commence par des petites vacances. Et puis ensuite, lui dis ok, je continue l'aventure tout seul maintenant.
C'est ça. Ça, okay. C'était ma première erreur. Commencer par des petites vacances pépouze. C'était pas évident ensuite de faire la transition vers un truc tout de suite un peu hardcore. Ce qui a été plutôt rapide, puisque le soir même, du jour où je l'ai accompagné à l'aéroport, je me suis retrouvé dans un petit camp de pêcheurs. Dans un petit coin de forêt, de taïga, parce que j'avais le grand projet de traverser cet espace de taïga entre le lac Baïkal et la frontière mongole.
Ok.
C'était mignon, sur le papier.
Dans ta tête.
Dans ma tête, c'était très charmant. En plus, il y avait des loups et c'est, tout, j'étais
c'est
content.
C'est une forêt, juste que je m'imagine, c'est des pins, c'est...
Alors moi non plus, je m'imaginais
c'est
pas...
C'est une forêt de montagne, ça.
En fait, c'est une forêt dense. Énormément de végétation, énormément de vie, des troncs d'arbres partout, des rivières à traverser, des petites falaises à escalader. Et moi, j'ai eu la très très belle idée d'aller traverser cette forêt avec un sac de 32 kilos sur le dos. Ce qui est bête. Alors, quand on s'appelle Mike Horn, on peut faire ce genre de choses. Mais moi, non, c'était une très mauvaise idée. Donc, j'ai jamais eu autant de bleu qu'en quelques jours de traverser cette forêt.
Parce que tu tombais ?
Tout le temps. Tout le temps. Mais il y a tout le temps des trucs à escalader, les traversées de rivières, c'est n'importe quoi. T'as des espèces de troncs d'arbres qui traversent les rivières et donc il faut marcher dessus, ça glisse, donc tu tombes dans la rivière, évidemment. Donc voilà, c'était un scandale. Et puis au bout d'une semaine, j'ai vécu un gros échec.
Okay.
Alors, je me suis retrouvé en haut d'un col, col de montagne avec beaucoup de forêt. C'était le premier moment où j'avais une vision sur ce que j'allais traverser. Et là, j'ai vu 300 km de taïga et je me suis dit, non, je ne suis pas prêt. Je suis pas prêt. En fait, je vais mourir là-dedans. Je le sens bien. Ça va pas être possible.
J'ai une question. J'ai une question pratique. Donc, déjà, tu nous as parlé de ton sac qui était beaucoup trop lourd. Ça, c'est une erreur plutôt commune. Donc, je suis contente. On se reconnaît. Comment tu te repères ? T'as une boussole ? Est-ce que t'as déjà un GPS ? Comment tu sais où tu dois aller ?
Alors à cet endroit-là, c'est très intéressant justement la question de la boussole, parce que bon, une boussole en montagne, la plupart du temps, ça sert pas à grand-chose. Il y a tout le temps des trucs à contourner. En forêt-montagne, c'est pareil. On peut très bien devoir aller au nord pour aller à l'est. Et là, en fait, je n'avais pas de carte. Et j'ai une petite anecdote à ce propos. La veille, je me retrouve donc dans un camp, voilà, pour le coup un camp militaire, et je demande si les militaires ont une carte à me donner, à me vendre, je ne sais pas.
Tu vois un camp militaire russe ?
Oui, mais ils étaient très sympas. Okay. Et en fait, on ne peut pas... Alors, pour info, on ne peut pas trouver de carte juste russe. En fait, seuls les militaires ont des cartes sur la Russie. Celles qu'on va trouver en Europe sont souvent fausses, parce que l'État russe aime bien
brouiller les pistes.
Brouiller
tu
les
le
pistes.
Savais avant ?
Non, parce que je suis parti comme un gros naze. Okay. Et donc, je vais dans ce camp militaire, je leur demande une carte, et ils me disent, ben non, on n'en a pas. Mais par contre, il y avait un type juste à côté qui me regarde comme ça. Bon, alors, il avait le visage balafré. J'étais pas hyper serein comme ça, mais il me regarde et il me dit, si tu viens chez moi, je te donne la carte que j'ai dessinée moi-même. Et donc, on va chez lui. Sauf qu'entre-temps, il me ramène dans un espèce de quartier avec des immeubles tout tordus, les fenêtres pétées. J'étais pas tranquille. Je me suis dit, mais je suis le dernier des abrutis de le suivre. C'est sûr, je vais me faire agresser, dépouiller.
Coupe-gorge, vente d'organes.
Ouais, je sens mal le truc. Dans sa cage d'escalier, il faisait tout noir. Je commence à défaire mon sac. Je me dis, s'il y a une embrouille, je défais mon sac et je pars en courant. Et en fait, on arrive devant chez lui. Et entre-temps, pendant le trajet, il avait envoyé un petit message à sa femme qui nous ouvre avec une délicieuse odeur de gâteau, comme ça, qui sort de l'appartement. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont juste adorables, ces gens. Et il m'invite... Alors, c'était pas chez lui, en plus. Il était chez une logeuse, ça porte un nom en Russie, un nom que j'ai oublié. Mais pour les gens très pauvres, ils vivent chez des logeuses. Donc là, c'était une babouchka, une grand-mère, qui leur laissait une chambre. Et donc, j'étais invité chez cette babouchka. On a mangé un petit gâteau, puis j'ai dormi chez eux, au pied de leur lit. C'était très mignon. Et le lendemain matin, ils m'ont donné un contact pour rejoindre une partie de la rivière avec un ami à eux, etc. Mais donc, j'ai fini avec cette carte-là,
okay.
Qui était une carte dessinée sur un A4. Et qui reprenait les principales rivières, avec quelques montagnes. Bon, c'était injouable de se repérer complètement, mais ça me donnait une petite idée de ce que j'allais avoir à traverser.
Ok, donc tu suivais les rivières, les vallées.
J'essayais.
Ouais, t'essayais. Et est-ce que t'es allé en marchant comme ça jusqu'en Mongolie ?
Non, alors du coup, j'ai fait ma petite semaine de marche dans la taïga pour essayer de traverser. Là, je me rends compte que ça va pas fonctionner. Je reviens en arrière. J'arrive jusqu'à la nationale, parce qu'il y a une nationale qui traverse cette taïga. Et je rencontre plein de gens au passage. Et je finis par arriver en stop dans une petite ville qui s'appelle Oulan-Udé et qui est la capitale de la Bouriatie, qui est une petite république indépendante russe. Et là, je suis logé chez la personne qui m'a pris en stop. Et il m'emmène dans le seul magasin de vélo de la ville. Pourtant une grande ville. Et donc, dans ce grand magasin, il n'y avait qu'un seul modèle de vélo. Je l'achète. Et un quart d'heure après, quand j'installe toutes mes affaires sur le vélo, je me rends compte que ce vélo n'a pas de frein. En fait, c'est des freins à rétropédalage, ce qui n'est pas du tout pratique.
Mais c'est à la mode, c'est un fixie.
C'est formidable. Non, c'est formidable quand on est sur du plat, c'est génial. Dans une côte, c'est un enfer. Et je me rends compte qu'il n'a pas de vitesse. Ce qui est aussi une idée pourrie quand on veut traverser donc l'espace qui relie la Sibérie à la Mongolie. Parce que là encore, comme je n'étais pas préparé, je ne savais pas qu'il y avait un massif de montagnes pile entre la Sibérie et la Mongolie. Moi, je m'attendais à du plat. Et donc, je me retrouve à taper des cols à 3000 mètres avec un vélo à une vitesse
okay. Voilà,
et des freins à rétropédalage. Donc, c'était un enfer. Et moi, j'avais acheté ce vélo en me disant, bon, je viens de vivre mon premier échec de l'aventure. Visiblement, je suis pas Mike Horn, mais peut-être que si je redémarre doucement, ça va être bon pour le moral. Et donc, le vélo, je me dis, oh, c'est bon, le vélo, j'en ai fait toute ma vie, ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé, mais j'en ai chié. Mais alors, un truc de dingue. Non, c'était vraiment dur. Je me faisais 90 km par jour, ce qui n'est pas immense. Mais avec ce vélo-là, ça me prenait quand même 13 heures dans la journée. J'ai perdu l'usage de mes fesses pendant quelques jours. C'était un enfer. Et en plus, les Mongols ne sont pas très vélos.
Okay.
Donc... tracé à toute vitesse, ils étaient à 100-110 sur une nationale. Bon, quand il y avait des voitures, parce que quand même la plupart du temps j'étais tout seul. C'était une expérience sympa. Je me suis bien marré. J'ai passé mes premières nuits dehors en Mongolie, à côté de yourtes de nomades. J'ai rencontré mes premiers chameaux. C'était quand même une expérience un peu rigolote.
Okay.
Et je suis arrivé à Oulan-Bator à vélo. Et ça, c'était une arrivée magique. Parce que parce qu'en fait, avant Oulan-Bator, il y avait un espèce de grand col à 2000 mètres à peu près d'altitude. J'avais pas mal souffert pour arriver en haut. J'arrive en haut et là, dans la descente, qui était une descente formidable, un bon 25-30 minutes de descente sans donner un coup de pédale. Et sur ma gauche, il y avait le Transsibérien qui arrivait.
Ah, magique.
Qui part d'Irkoutsk et qui arrive à Oulan-Bator. C'était phénoménal. J'ai adoré cette arrivée.
Fantastique. T'arrives à Oulan-Bator, c'est la capitale. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense avoir déjà eu des échos de cette capitale. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que...
Alors, je m'attendais à rien, déjà.
Effectivement, tu n'étais pas préparé. Tu n'avais pas... Est-ce que tu connaissais le nom de la capitale?
ouais, quand même. Mais alors, je ne visualisais pas du tout. Mmh. Et c'est une ville assez étonnante. Alors, on n'aime pas. Eh ben, on peut se retrouver dans une allée avec des espèces d'immeubles en verre, verre miroir comme ça, c'est très beau.
Wall Street.
Ouais, des magasins Yves Rocher. Il y a un magasin Yves Rocher à Oulan-Bator, bon, c'est dingue. un espèce de Burger King, des trucs comme ça, super modernes. Et autour de la ville, des quartiers de yourte. Donc ça, c'est complètement surréaliste, comme d'ailleurs, parce qu'une yourte en Mongolie, c'est quand même une petite tente entourée d'un immense jardin. Et là, à Oulan-Bator, on se retrouve avec toujours la même petite tente, mais tout autour de la tente, il y a des murs ou des barrières. Donc ça donne un truc, c'est assez décalé.
Et pourquoi ils ont ça, tu sais? Est-ce que c'est leur tradition ou ils sont trop... pauvres pour...
Mais parce qu'ils sont pauvres, c'est tout. Ouais, c'est... En fait, il existe un phénomène en Mongolie qui s'appelle le tsoud. C'est un hiver difficile, voilà, pour la faire simple. Et un hiver difficile en Mongolie, c'est un hiver à moins 60, moins 70 degrés. Donc, il y a beaucoup de nomades qui, à ces périodes-là, perdent une grosse partie de leur troupeau. Et quand ils perdent trop de pourcentage de leur troupeau, ils n'ont plus vraiment d'autre choix que d'aller à la capitale pour essayer de trouver un boulot qui n'est pas du tout le leur. Et c'est un désastre, parce qu'en allant dans la capitale, ils perdent tout ce qui fait la philosophie du nomade. C'est-à-dire là où il y a, par exemple, une solidarité intrinsèque à la vie de nomade, on se retrouve dans une ville hyper individualiste, on n'a plus du tout les mêmes valeurs qu'à la campagne. Donc c'est une ville un peu particulière, beaucoup de bruit, beaucoup de voitures, mais des choses assez chouettes aussi. On peut, dans la rue, rencontrer deux petits vieux en habit traditionnel à côté d'un type qui est en smoking avec sa petite mallette. Mmh. C'est assez barré comme film.
Tu y restes longtemps, pardon.
Et j'y reste trop longtemps. En fait, bien plus longtemps que je ne le souhaite parce que j'ai des problèmes de visa.
Ok.
Des problèmes de visa qui m'obligent à aller tous les jours à près de l'aéroport. Il y a un bureau international pour faire mes papiers. Je me retrouve face à des fonctionnaires aussi butés que ceux qu'on peut retrouver en France. Et comme on ne veut pas me donner un visa, en tout cas je mets un certain temps à trouver la solution pour l'avoir, je suis obligé de quitter le pays pour pouvoir y re-rentrer avec un nouveau visa.
Ok.
Donc c'est là que je pars en Chine. Et j'y vais à vélo,
avec
toujours mon vélo pourri, parce qu'entre temps j'ai quand même passé 3 semaines à Oulan-Bator, j'ai un peu oublié que mon vélo était tout pourri, et je me sens en forme, j'ai qu'une envie, c'est d'envoyer, et donc là je pars avec juste, je crois 10 kilos ou 5 kilos de chargement, j'en laisse une partie à Oulan-Bator, je pars avec mon petit vélo, et là... rien à voir avec le début, j'envoie la première journée, je crois, 180 km. Bon, je suis à fond. Deuxième journée, pareil, je suis à fond. Et la troisième, j'arrive dans le désert de Gobi. Et là, en une demi-heure, je crève 3 fois. Et évidemment, comme je suis un gros naze, je n'avais pas emporté assez de solutions de réparation. Donc je fais du stop. Je fais du stop dans le désert de Gobi. Alors, il faut imaginer, donc c'est quand même le désert de Gobi, un endroit... assez immense, avec tout un tas de petites pistes qu'empruntent des voitures. En fait, c'est pas une route. En fait, on va avoir une cinquantaine de pistes sur quelque chose comme 3 km. Et donc, pour faire du stop, c'est idéal, parce qu'on va se retrouver sur une des pistes, et puis on peut trouver la seule voiture qui arrive dans l'heure, mais elle est à 2 km de là. Donc, nickel. Mais j'ai de la chance. Une voiture me prend. Et m'emmène dans une petite ville qui s'appelle Sunshine. Et là, je répare mon vélo et je continue jusqu'à la frontière.
Ok.
Arrivé à la frontière, je tombe sur le fonctionnaire. Évidemment, on est vendredi 16h. Il me dit, il va falloir revenir lundi. moi, je ne suis pas ravi de passer le week-end sur ce poste frontière qui n'a vraiment aucun intérêt. J'entends dans la rue un petit bruit comme ça qui dit « Beijing, Beijing, Beijing ». J'entends qu'il y a un bus qui part donc à Beijing. J'achète mon ticket, je ne réfléchis pas, j'achète mon ticket. Je mets mon vélo dans le bus et je fais un trajet de nuit. Voilà, et j'arrive à Pékin le lendemain matin, toujours avec mon petit vélo.
C'est génial, t'as su profiter de l'opportunité pour passer un bon week-end.
Alors, plus qu'un bon week-end, parce que finalement...
Je suis restée 3 mois.
Non, quand même. Une petite quinzaine de jours, quand même. Mais parce qu'il se trouve qu'à Pékin, je rencontre dans la rue un type dont je ne vous ai pas parlé avant, qui s'appelle Julien, que j'avais déjà vu une première fois en Sibérie sur l'île d'Olkhon, et que j'ai recroisé par hasard à Oulan-Bator.
Ça, c'est fou,
et que je recroise encore une troisième fois par hasard à Pékin. Donc, on se dit, le destin est avec nous, il va falloir qu'on fasse un petit truc ensemble. attention à ce que vous imaginez. Non, moi, j'avais envie d'aller sur la muraille de Chine, évidemment, comme tous les touristes, lui aussi. Et donc, on se dit, on va aller sur la muraille de Chine. On cherche une carte. On ne trouve pas de carte de la muraille de Chine à Pékin. Non, réellement, ça n'existe pas.
D'accord.
Enfin, on en trouve une qui fait à peu près 4 cm sur 4 cm. Voilà. Pour l'ensemble de la muraille.
Oui, mais parce que qui fait ça? Les gens, ils vont en bus, ils prennent 3 photos et ils repartent.
Ben oui, mais moi, je ne savais pas.
Et toi, qu'est-ce que tu avais envie de faire?
Moi, j'avais envie de marcher sur la muraille et pas de traverser toute la muraille. Hein. Je sais qu'elle fait 6700 et quelques kilomètres. Mais j'avais envie de passer quelques jours. Au début, on était parti pour 2 jours. Donc, on part avec du matériel pour 2 jours. On n'a pas de tente, on n'a pas de sac de couchage et on n'a pas de matelas parce qu'on voulait voyager léger. Moi, j'avais laissé tout mon matériel à Oulan-Bator. Mais on part avec 2 litres d'eau et un tout petit peu de nourriture. Et puis, c'est que pour 2 jours. Donc, voilà. Et d'abord, on se rend compte qu'on n'a pas le droit, en fait.
Interdit. Tu n'as pas le droit de marcher.
Mais en fait, il y a des petits lieux.
Protégé.
Mais oui, parce qu'en fait, il y a des petits lieux touristiques avec un militaire de chaque côté, hein, de son bout de muraille. Et passé ce militaire, ça devient zone interdite. Ils ont leur raison. Nous, évidemment, avec ce Julien, on se dit « Non, on ne va pas s'arrêter là. » Donc, on passe par le bas de la muraille et puis on l'escalade une petite centaine de mètres plus loin. Et on se retrouve donc à la sauvage sur la muraille de Chine.
Tu sais ce... Bon, peut-être que tu vas nous raconter. Si tu te faisais prendre, tu sais ce que tu risquais?
Aucune idée, mais j'avais pas du tout envie de rencontrer un militaire chinois. Ils sont pas particulièrement sympathiques comme ça. Non, aucune idée.
Okay.
Mais on l'a fait pire après. Et donc on se retrouve sur la muraille, et là, la muraille est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films, dans les reportages, etc. Savoir que dans les reportages, on a une belle muraille avec des belles marges bien dessinées, tout est propre, c'est très beau. Et là, en fait, on se retrouve dans la jungle. C'est-à-dire que sur la muraille pousse beaucoup de végétation.
Et oui, la nature reprend ses droits.
C'est ça. Donc on a des arbres de part et d'autre, et un espèce de mini chemin, enfin une sente entre ces arbres au milieu de la muraille, sente sur laquelle adorent proliférer les araignées.
Okay.
Donc elles tissent leur toile au milieu de cette petite sente, parce qu'il y a plein de grillons qui passent. Et donc, on se retrouve avec des énormes araignées, comme ça, sur le ventre, sur le visage, parfois en traversant. Absolument infect. J'aime pas les araignées, en plus. Et donc, c'était assez rigolo. Et ça a duré, finalement, 10 jours.
Okay.
On dort dans les tours de la muraille.
Vous retrouviez de l'eau?
On retrouve de temps en temps de l'eau. En traversant des rivières, des choses comme ça. On se retrouve aussi à devoir escalader des trucs hallucinants. Hallucinants. Les Chinois ont inventé des principes d'escalier en pyramide qui font 5 mètres de haut sur des briques branlantes. C'est un scandale.
Mais c'était peut-être pas comme ça au début.
Non, mais ils le font parce qu'on en a vu, on a vu des gens. Alors, on croise très peu de gens sur la muraille. On en a croisé grosso modo 10.
mais qui, comme vous, étaient des rebelles et...
Non, les autres, ils partaient d'un petit village et ils avaient un guide. Et ils montaient juste 200-300 mètres sur la muraille, ils se prenaient en photo dans la tour et voilà. Okay. Sinon, non, on a croisé personne, à part des serpents.
Donc, une belle parenthèse chinoise.
Une belle parenthèse chinoise.
Tu as eu ton visa.
J'ai eu mon visa.
Et j'ai quand même une question. Est-ce que, j'ai l'impression déjà en quelques semaines, tu as fait des rencontres. Bon, c'est très souvent comme ça, le voyage. Mais est-ce que tu es quelqu'un de très sociable ou les gens venaient vers toi
Ce qui fait que les gens viennent vers moi, c'est pas forcément ma personnalité, c'est plus
c'est ton gros sac, ton vélo.
Sac. Mais c'est ça, c'est plus la surprise de voir débarquer un type comme ça dans un lieu où il n'y a pas énormément d'étrangers, surtout en Mongolie. Okay. Et les Mongols sont quand même très... Alors ils ont deux visages, soit ils n'en ont rien à carrer du type qui passe, comme ça, même s'ils n'ont jamais vu un étranger, ils n'en ont rien à faire, soit ils sont super accueillants. Okay. Il y a aussi une troisième situation qu'on m'a racontée.
T'allais dire catégorie, tu t'es dit je peux pas mettre les gens dans les cases.
Non, tu vas voir. Non, on me l'a raconté.
Ah, ça devient malaisant.
Non, en fait, on m'a raconté ça 7 ans plus tard quand j'y suis retourné. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Mais certaines personnes ont pu me prendre pour un esprit.
Je croyais un espion, j'avais dit bah non.
Non, un fantôme en fait.
Okay.
Ils ont pas mal de croyances en Mongolie. Et voir un type débarquer, tout barbu, avec un énorme sac et qui marche, sachant que les Mongols, ils portent jamais rien parce que c'est leur cheval qu'ils portent. Mmh. Et ils marchent jamais parce qu'ils sont à cheval. Et ils ont rarement des grosses barbes. Donc ils comprenaient pas. Et je crois qu'il y en a qui se sont vraiment dit. Ah ouais, mais alors ce truc-là, on va pas lui parler parce que c'est un esprit de la montagne, je sais pas, une espèce de... Voilà.
C'est fou. Qui t'a raconté ça? Qui t'a expliqué? Ah, peut-être qu'on y reviendra.
On y reviendra,
j'adore. Ok, donc là, on a quitté la Chine, on a un visa en poche, on est de retour à la capitale, tu vas récupérer tes affaires, et quel est le plan après? Ou quel est le plan? Qu'est-ce qui se passe?
Alors là, je pars au Tsar, Khartsar. Le marché noir, le grand marché noir d'Oulan-Bator, qui est un truc où on trouve absolument tout. Ça peut être de la bouffe, ça peut être... Tu peux réparer ton vélo, tu peux acheter n'importe quoi. J'ai même trouvé un nunchaku là-bas. et moi, j'y allais pour acheter ma selle, tout mon matos pour
la
le futur cheval,
cheval.
Que j'avais l'intention d'acheter.
Okay.
Donc j'achète ma selle, une petite selle chinoise, parce qu'il existe des selles mongoles, mais qui sont en bois. Et j'avais quand même peur pour mon fessier, notamment après l'épisode du vélo. Donc je voulais quand même me protéger un minimum. Et donc j'achète ma selle et tout ce qui va avec. Parce que moi, j'y connais absolument rien. Et j'ai encore oublié les noms, peut-être la longe. Voilà, j'ai encore des trucs, le mort. Et là, je pars avec la personne qui tient la guest house dans laquelle je dors. Qui est devenue un ami et elle m'emmène dans la campagne d'Oulan-Bator pour trouver un cheval.
Ok. Est-ce que toi tu... Je dis toujours ok. Est-ce que tu t'avais prévu d'acheter ce cheval?
J'avais prévu d'acheter ce cheval.
Pourquoi? Est-ce que c'était parce que ça fait partie du mythe, je traverse la Mongolie en cheval, ou
alors,
parce
il
que
y
c'est ce qu'il y a de plus pratique, j'imagine aussi.
Mais un peu des deux. En fait, il y avait ce délire d'être un cavalier en
petit
Mongolie.
Fantasme.
Ouais, petit fantasme.
Ouais, petit fantasme.
Et en plus, j'avais quand même 32 kilos de matériel.
Ouais.
Donc, je me disais, un cheval, ça peut être sympa quand même. Par contre, j'étais un peu freiné par mon incompétence à la matière. J'étais monté une fois dans ma vie à cheval, un mois avant. Et donc, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait un cheval. Est-ce qu'il fallait appuyer sur un bouton pour avancer, tourner à droite? Je n'y connaissais rien.
Et c'est cette personne de la guest house qui t'a un petit peu briefé, qui t'a expliqué comment
pas
ça marchait?
Non, pas okay. du tout. Non.
Je me suis débrouillée.
C'est ça. Il m'a emmené donc à la campagne. Très belle rivière. Là, on voit un magnifique troupeau de chevaux. J'avais l'impression qu'ils étaient sauvages comme ça. Ils étaient tous en famille. C'était magnifique. Je dis à Gand, le fameux copain mongol, et ils ont l'air très bien, ces chevaux. Peut-être qu'on pourrait aller en acheter un. Il me dit, allons voir l'éleveur. On va voir l'éleveur. L'éleveur monte sur son cheval. Il prend une espèce de grand bâton avec un lasso au bout. Il galope derrière le troupeau et ramène un magnifique cheval alezan. Alors, je dis cheval parce que quand même, c'est par prétention un petit peu. Nous, je crois que ce sont en réalité des doubles poneys. On les appelle double poney. Je trouve ça un petit peu nul comme nom. Ouais, je trouve ça un petit peu nul. Et moi, je n'avais pas très envie d'être poneyé, je voulais être cavalier. Donc, je dis cheval. Je vais rester sur cheval.
Mais il n'y a pas de souci. On reste sur cheval. Je préfère.
Merci. En plus, donc, je suis très fier de ce cheval que je décide d'appeler Jean-Luc.
Dans la pure tradition mongole.
Dans la pure tradition mongole. Non, quelque chose qui me rappelle un peu la France, ça fait du bien, ça tranquillise,
un compagnon,
voilà, ouais. Jean-Luc. Donc j'achète Jean-Luc.
Ça coûte cher un cheval en Mongolie ?
300 euros,
okay.
À l'époque. Maintenant, j'en sais rien. Mais donc je donne mes 300 euros, et puis le lendemain matin, je pars avec Jean-Luc. Et alors comme je suis un gars sympa, je décide de le monter qu'une heure sur deux, parce que j'ai quand même 30 kilos de chargement. Une heure sur deux, je le monte, et l'heure d'après, je l'utilise en cheval de bas. Et assez rapidement, donc je comprends que je suis vraiment... je suis une croûte en équitation. Bah vraiment, je suis nul. Mais j'apprends assez vite. Donc dès la première journée, il a fallu qu'on traverse une rivière sympathique. On a traversé une espèce de mini-forêt aux branches basses. Évidemment, je me suis pris des branches dans la tronche. J'ai failli tomber de cheval, tout ça. Mais ça se passe quand même bien. À la fin de la journée, je suis vivant, Jean-Luc est vivant, tout le monde va bien, on s'endort au bord de la rivière, sous la lune, on est au top.
Est-ce que c'est là, la région est montagneuse encore ?
Là, on est sur une large vallée au milieu de laquelle serpente une rivière qui s'appelle la rivière Toul, qui fait tout un tas de méandres dans cette large vallée. Et sur les rebords, sur les côtés de cette vallée, on a des montagnes relativement petites qui culminent à peut-être 1008, voilà, quelque chose comme ça. Sachant que le plateau mongol est déjà très haut. On est souvent au moins à 1000 mètres, 1400 mètres. La capitale est déjà à 1300 mètres d'altitude.
En fait, je te demande ça, plus là pour l'instant, t'as pas, et je sais pas si ce sera le cas, mais t'as pas apporté de nourriture. Là, il y a pour l'instant, la nature te fournit tout ce dont t'as besoin pour ton cheval. Bois.
Alors, pour mon cheval, oui, pas pour moi, par contre.
Pas pour toi.
Non, moi j'ai quand même ramené une douzaine de jours d'autonomie en nourriture, à base de soupe chinoise, de petits saucissons, de fruits secs, de choses comme ça. Et pendant l'aventure, j'essaierai toujours d'avoir à peu près 10-12 jours d'autonomie. Ça ne marchera pas toujours, mais mon objectif restera celui-là.
Là, c'est tes premiers jours à cheval. Dans quel état d'esprit t'es ? Est-ce que c'est l'extase ? Comment tu te sens ?
Je me sens comme un cow-boy à ce moment-là.
Okay.
je suis au top, j'ai mon petit chapeau sur la tête. Jean-Luc répond favorablement à mes demandes. On se balade dans des paysages qui sont un peu secs, mais très beaux. Vraiment très très beaux. Il commence à y avoir des belles couleurs sur les montagnes. Mmh. Je suis vraiment bien. J'ai perdu légèrement de confiance en moi en prenant des branches dans la gueule à la traversée de forêt. Mais globalement, je suis assez fier de moi. Je me dis qu'on arrive à traverser tous les jours des rivières ensemble, que je ne suis pas encore décédé. Je suis assez content.
Plus
à ce moment-là, je suis assez content.
Un loser que ça.
Un peu, mais pas tant
mais
que
pas
ça.
Trop.
Je commence à me délouser.
Ok. Et là, est-ce que tu traverses des villages ou c'est complètement désertique ? Enfin,
alors,
ouais,
il doit y avoir un village tous les 100 km à peu près. Et là, avec Jean-Luc, on fait... en tout, on va faire ensemble 250 km. Parce qu'il va se passer un événement dont nous allons parler ultérieurement, qui sera un événement tragique. Mais avant ça... on passe on coule des jours très heureux avec Jean-Luc. On s'entend bien, on fait des belles rencontres. Alors, parce que comment ça se passe la Mongolie exactement ? On parle toujours des nomades. Là, je vous ai parlé de cette large vallée. En fait, tout au long de cette vallée, je vais trouver des yourtes sur mon passage. Donc, ça peut être des campements de plusieurs yourtes. Il peut y avoir 4, 5, 6 yourtes. Souvent, c'est des familles. On a les grands-pères, les parents, les enfants. Et puis, parfois, on va avoir une yourte tous les 10 kilomètres. Et je vais faire la rencontre d'une famille assez sympa. Ça commence par deux gamins que je vois à un moment le long de la rivière Toul et qui sont en train de s'amuser à faire de la lutte mongole. C'est une lutte assez particulière où il faut faire tomber l'autre à terre et le premier qui met le genou à terre a perdu. Et donc je rigole bien avec eux. Les parents arrivent, ils m'invitent chez eux, on rigole bien. Et là arrive une scène un peu cocasse où... alors d'abord, quand on rentre dans une yourte en Mongolie, il y a des règles. L'invité est à gauche et les hôtes sont à droite.
Tu sais pourquoi ?
Oui, j'ai oublié évidemment, mais...
je savais qu'il fallait que je te...
Merci pour cette question malaisante. Non, mais non. D'autres te répondront bien mieux que moi.
Je me renseignerai.
De toute façon, toute la yourte est hyper codifiée. Moi, je ne maîtrise pas tous les codes de la yourte, mais je fais ce qu'on me dit. Et moi, quand on me dit « tu vas t'installer à gauche », je vais m'installer à gauche. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on se retrouve donc tout seul face à tous les autres. Tous les autres qui me posent tout un tas de questions, donc en mongol, bien entendu.
Eh oui, j'allais te demander comment ça se passe. Est-ce que tu avais des notions, tu avais des petits mots pour faire plaisir? Alors, comment tu faisais?
N'oublions pas que je suis un grand naze dans cette affaire. Donc j'ai avec moi un petit calepin, une petite feuille A5 avec une centaine de mots. J'essaye de les apprendre tous les jours et de me débrouiller avec ça, sachant que c'est évidemment insuffisant.
Et eux ne parlent pas anglais ou...
Ils ne parlent absolument pas anglais. Certains ont des notions de russe. Moi, à ce moment-là, j'ai passé quelques semaines en Russie, donc il m'arrive de comprendre un mot et de l'utiliser. Mais globalement, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'ils me disent.
Et du coup, vous souriez et...
Alors non, les Mongols, ils...
Est-ce que c'est un peuple qui sourit?
Ouais, quand même. Okay. Quand même. Alors, ils peuvent être ultra taciturnes et en même temps, à un moment, éclater de rire. Moi, je les aime beaucoup. Et à ce moment-là, donc je me retrouve face à cette famille qui, à un moment, je comprends, veut que je lui chante une chanson française.
Mais comment t'as compris ça? Est-ce qu'ils ont chanté et ils te montraient toi?
Alors eux, ils ont chanté et ils m'ont dit « Prantz ». Et « Prantz », ça ressemble quand même pas mal à France. Et puis je savais à ce moment-là que « Prantz », c'était la France. Je sais pas dire chanson, mais je sais dire la France. Et donc, dans ma tête, je me dis « Merde, une chanson française ».
J'ai peur.
Non, parce que quand on te pose ce genre de questions, en général, tu en as une en tête, et alors c'est comme si tout le reste était un écran noir, tu ne vois rien d'autre. Et moi, à ce moment-là, la seule que j'ai en tête, c'est une maison bleue. Charmante.
Bah oui.
Charmante.
Là, je m'attendais à...
Non. Non, ça aurait pu être du Sardou, un truc absolument affreux. Non, là, c'est une maison bleue. Et donc, alors l'avoir en tête, c'est une chose. La chanter, c'en est une autre. Oui. Surtout quand on a mon talent de chanteur. Dur. Surtout que les Mongols chantent très, très bien. Particulièrement bien. Et en plus, c'est quelque chose de très viril chez les Mongols, le chant. Donc ils apprécient énormément les hommes qui chantent. Et donc moi je commence ma petite version toute tranquille de « C'est une maison bleue ». Je sens assez rapidement que le public n'est pas avec moi. Ils me regardent tous d'un air hyper sérieux. Je sens que vraiment je fais de la merde.
Tu les déçois.
Je les déçois. Et un mongol déçu, ça se voit. Et donc là, j'empire le truc. Je me dis, bon, bah, puisque tel quel à la Maxime Forestier, ça ne va pas le faire, j'essaye d'envoyer un petit peu un peu d'érisme, un peu de sonorité arabe, comme ça, je fais... ça devient une version mutante de la petite maison, de la maison bleue. Un truc horrible. Et même moi, plus je chante, plus je trouve ça affreux. J'ai hâte que ça se termine. Mais je balance de plus en plus parce que je vois qu'en face, ça rigole pas. Et donc, je finis ma chanson et rien. Pas un applaudissement de juste de courtoisie ou un signe d'encouragement. Genre, c'était vraiment nul, mais quand même, c'est sympa d'avoir tenté. Rien. Ils me regardent et ils me disent « Ok, maintenant, fais-nous une danse française. » Je me dis « Ok, ça va être chaud cette soirée. » Donc, je me lève. Alors, une danse sans musique, hein, en plus. Donc, moi, je me fais mon petit a cappella dans ma tête. Je m'imagine un petit groove. Et je commence à y aller. J'envoie de l'épaule, j'envoie du fessier. Comme ça, je commence à me sentir bien tout seul. Donc, toujours face à ces 6-7 personnes qui me regardent avec leur air taciturne. Et je commence à bien envoyer. Là, je suis bien dedans. Je me sens un petit peu Marvin Gaye. Hop, hop, hop. Ça groove. Et là, je commence une danse du tap-fesse.
Alors, c'est-à-dire ?
Je me lâche un peu. Bah, vous savez très bien, tout le monde a fait ça dans une boîte de nuit en France. On se tape les fesses, quoi. Non, on se tape soi-même les fesses, comme ça, on y va. J'y vais et je balance tout ce que j'ai. Voilà. Tout seul comme un couillon.
Donc, juste parce que vous ne l'avez pas vu, mais Mickaël vient de faire un petit rodéo en se tapant la fesse.
Et là, ça fait son effet. Là, j'ai 6 mongols qui s'éclatent. Je sens que j'ai gagné leur cœur, quoi.
Est-ce que tu les as vus, toi, danser avant ?
Non.
Ok.
Non, je suis le seul à performer à ce moment-là, quoi. C'est un test de passage pour voir si je mérite leur respect.
Leur performance, leur respect.
Et donc, ils sont heureux. Et là, je deviens leur meilleur ami. Ils appellent tous les voisins. À chaque fois qu'ils les croisent ou qu'ils me croisent, parce que je reste la journée d'après, on se fait la danse du tap-fesse. Vraiment, ça se passe bien. Et donc, il y a une yourte, peut-être même une vallée en Mongolie où on pense que la danse française, c'est la danse du tap-fesse. Il faut le savoir. Si jamais vous y allez un jour,
oh, merci
faut faire
d'avoir
sa danse
représenté
du tap-fesse.
La francophonie.
Ça me fait plaisir.
Génial. Ils t'ont montré après à quoi ça ressemblait leur danse à eux ?
Alors, leurs danses à eux sont assez sobres. Comme ça, de ce que j'ai vu, on était sur quelque chose d'assez sobre. Hein. C'était on n'était pas sur du tap-fesse. Mais un petit rythme un peu sympa. C'est plus le chant qui m'a impressionné en Mongolie.
Ouais, tu me disais que la musique, le chant, c'est quelque chose qui t'a marqué là-bas, qui est très important.
Ah ouais. Et alors, ils ont deux chants. Nous, on connaît bien le chant diphonique. On a l'habitude, une espèce de truc avec des voix qui viennent du fond de la gorge. Ça, on a un petit peu l'habitude en France d'en avoir entendu. Mais ils ont aussi un chant lyrique qui s'appelle le chant long. Et là, on est sur des voix magnifiques, hommes comme femmes. Et alors, ils peuvent chanter à n'importe quel moment. Je rencontrais un Mongol. Un jour, il était sur son cheval, il se baladait. Puis tout d'un coup, hop! Il pousse la chansonnette pour dire des trucs comme « Mais quelle est belle ma montagne !» et « J'adore mon cheval !» Mon espèce de... Moi, je la fais à la Johnny, je sais pas pourquoi. Mais il balance du chant lyrique. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. À tel point que parfois, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'était beau.
Alors, on vous a sélectionné un petit extrait pour vous montrer, pour vous faire écouter à quoi ça ressemble. Tu veux expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? C'est du chant long ?
Du chant long.
Du chant long.
Et là, l'artiste en question.
Il est beau ma montagne. Elle est belle ma montagne, il est beau mon cheval.
Ouais, on parle beaucoup de paysages.
Ok.
Vraiment beaucoup. Et là, c'est un extrait d'Urna. Alors, on dit soit Tsahar, soit Shahar. C'est une artiste qui vient de Mongolie intérieure.
Merci.
Ça me fait plaisir.
Place à l'écoute. Petite question quand même que je trouve importante. Quelle est la place de la femme dans la yourte ? Est-ce que les Mongols sont des gros machos ? Comment ça se passe ?
Alors, je m'étais posé la question aussi et j'ai été assez surpris, notamment dans cette petite famille là, dont on parle. J'ai vu beaucoup de tendresse exprimée. Voilà, entre le mari et sa femme, alors que je m'attendais à une pudeur un peu plus asiatique, plus chinoise, et pas du tout. Ils se prenaient dans les bras, ils rigolaient ensemble, ils chatouillaient, ils se taquinaient. J'ai bien aimé. Et faut savoir qu'en Mongolie, c'est la femme qui est un peu la reine de la yourte. Alors, avec les avantages et les inconvénients. L'avantage, elle prend les décisions dans la yourte. L'inconvénient, c'est que c'est elle qui gère tout ce qu'il y a à faire à la yourte. Ça. Par exemple, aller chercher de l'eau à 5h du matin dans une rivière gelée, allumer le feu le matin au réveil.
Okay.
Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais globalement, j'ai trouvé que les relations étaient assez équilibrées. En tout cas, selon le degré d'alcoolémie du mari.
Ok.
Parce que oui, les Mongols ont un problème avec l'alcool. Il faut quand même en parler.
Mais parlons-en.
Non, bon, on va s'arrêter là. Okay.
Ça marche. Tu fais cette rencontre dans cette famille. Tu restes plusieurs jours. Et puis, il faut reprendre la route parce qu'il faut avancer. Et qu'est-ce qui se passe après ?
Il va se passer des milliards de choses chaque jour. Je vais faire un galop nocturne avec Jean-Luc, ça va être incroyable. On va être invité chez d'autres gens, on s'amuse, on commence vraiment à se kiffer l'un l'autre avec Jean-Luc. Et un jour, le drame. Je dors chez des éleveurs qui m'ont invité, deux petits vieux, comme ça, qui sont tout gentils. Et le lendemain matin, Jean-Luc a disparu. Alors ouais. qu'il était... je trouve plus le terme équestre, entravé.
Attaché.
Il était entravé, c'est ça. On met des entraves, c'est-à-dire on met comme deux cordes qui relient deux pattes sur les quatre. Mmh. Et il était avec le reste du troupeau de chevaux des Mongols. Et normalement, les chevaux restent toujours ensemble. Donc là, l'hypothèse la plus plausible, qui était quelque chose qu'on m'avait déjà annoncé avant, c'est il s'est fait voler. Et en fait, il faut savoir que le vol de chevaux en Mongolie, c'est très grave, sauf quand il s'agit d'un étranger. Et en fait, j'aime bien cette idée, parce que le cheval appartient à la Mongolie. Voilà. Mmh. On peut l'avoir acheté, 300 euros, ou ce qu'on veut, il appartient à la fin à la Mongolie. Donc je crois que Jean-Luc ne s'est pas fait la malle, même si ça reste une hypothèse aussi, et je crois qu'il s'est fait voler, tout simplement, potentiellement même par les gens qui me l'ont vendu, je ne sais pas.
Mais les gens qui te l'ont vendu, ça veut dire qu'ils auraient fait 250 km pour venir récupérer le cheval ?
Le Mongol est prêt à tout. Hein.
Ah ouais. Et là, je te trouve extrêmement sage. Tu relativises. C'est magnifique. Comment tu te sens sur le moment ? Est-ce que...
À ce moment-là, je viens de prendre 10 points sur l'échelle de la loserie. Je me dis
on
que
y
vraiment,
revient.
Ouais, je redeviens un loser. Je me dis, oh non, c'est pas vrai, j'ai pas été capable de gérer mon cheval, quand même. Parce que toutes les nuits d'avant, je dormais à côté de lui. Comme on m'avait annoncé que c'était un risque potentiel, le vol, je dormais à côté de lui. Et là, la seule nuit où je dors dans une yourte, il se trouve que, bim.
Parce que d'habitude, tu dormais dehors.
Je dormais dehors, j'avais une petite tente. Même quand j'étais invité chez les nomades, je dormais quand même la nuit dans ma tente, ouverte vers Jean-Luc.
Okay.
Et parfois même sur mon petit matelas de sol, à la belle étoile.
Et les températures la nuit, juste pour qu'on se sente à ta place.
Alors là, on est encore en été, hein, on est au mois d'août. Mais la nuit, on est parfois déjà sur du moins 10.
D'accord.
Donc il fait déjà un petit peu frais. Et la journée, par contre, il fait super beau.
Et t'as
20,
un sac de couchage, t'as des peaux de bête.
J'ai un sac de couchage de compétition.
Okay.
Avec lequel je suis censé pouvoir aller jusqu'à moins 32. On verra plus tard qu'il n'en sera rien. Mais à ce moment-là, j'y crois encore et à moins 10, il est top. Et donc, je me retrouve sans Jean-Luc.
Sans Jean-Luc. C'est la loose.
C'est la grosse.
Est-ce que la famille qui t'accueille te trouve une solution, mais c'est des éleveurs. Est-ce que tu as envisagé en racheter un ou tu t'es dit non, c'est le destin, je continue sans Jean-Luc autrement? Comment tu refais tes plans?
Alors à ce moment-là, je me dis que c'est le destin et que finalement, le fait d'être libre, de ne pas avoir un animal qui dépend de moi, peut-être que ça va plus me convenir. Donc, je prends mon sac sur mon dos, donc il fait toujours 32 kilos, je lui enlève un petit peu d'eau, un petit peu de deux, trois petites choses qui me servent, je crois qu'elles ne me serviront pas. Je les laisse aux nomades et je continue mon chemin avec quand même un sac à dos qui fait quand même une petite trentaine de kilos.
Ok, à pied.
Voilà, à pied. Je quitte la rivière Toul et je commence à m'enfoncer dans les steppes. Donc, il faut imaginer des collines avec une espèce de petite herbe dorée, des petits cailloux et tout ça qui s'étend à l'horizon. C'est des collines et des collines sur 200 kilomètres.
Et là, tu as une boussole. J'en reviens à ma question, mais parce que vraiment, je me dis... j'essaye de me mettre à ta place. Comment tu te repères?
Alors là, je ne suis pas un gros naze, pour le coup. Parce qu'à Oulan-Bator, j'ai pris soin d'acheter 10 cartes de la Mongolie. Et attention, on est sur du 1/500 millième. Autant te dire...
Je sais pas ce que ça veut dire.
Normal. En fait, elles ne sont pas du tout précises. C'est-à-dire que grosso modo, sur 1 cm, tu as 5 km de montagne.
D'accord.
5 km de montagne, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai des cartes qui ne sont pas très précises, mais qui me permettent de voir par quel village je vais potentiellement passer, voir parfois s'il existe un col ou pas. Donc, ce sont des cartes russes qui sont parfois fausses. Voilà, toujours pareil. Mais là, en l'occurrence, dans les steppes, je n'ai qu'à prendre ma boussole et je file vers l'ouest. C'est mon objectif, filer vers l'ouest jusqu'à l'Altaï mongole.
La montagne. Voilà. C'est une montagne. Ok. On a parlé un petit peu de tes rencontres humaines. Je crois savoir qu'il y a eu des rencontres animales qui valent la peine d'être entendu.
Ouais, alors pareil, j'étais parti en Mongolie en ne sachant pas qu'il y avait des loups en Mongolie. En tout cas, pas autant. Et il s'avère qu'il y a plus de 150 000 loups dans le pays. Donc il y a des loups partout. Mais vraiment.
On connaît
partout.
La population
mongole.
Est-ce qu'il y a plus de loups que... Non, c'est gigantesque.
Ils sont à peu près 3 millions d'habitants, okay. Ce qui n'est pas énorme, et sachant qu'il y en a déjà 1 million ou 2 qui sont dans la capitale. Donc il y a 1 million d'habitants qui se partagent un pays grand comme 3 fois la France.
Bon, c'était une parenthèse parce que...
Petite parenthèse
géographique. Il n'y a pas plus de loups que...
Non, mais je crois que ça fait un loup pour 25 habitants.
Voilà. C'est énorme.
Et donc, une nuit, je pose ma tente dans un décor magnifique, on dirait un champ de blé doré, c'est superbe. Je suis bien là, je suis tout seul, je regarde bien autour de moi et il n'y a rien du tout. Parfait. Sauf qu'à minuit, j'entends ce magnifique hurlement de loup qu'on connaît tous, suivi de petits jappements ou d'aboiements qui, grosso modo, je comprends assez vite, veulent dire « Les gars, on part à la chasse, on a faim, c'est parti, on va bouffer. » Je me dis « Bah, pas de problème. De toute façon, le loup n'attaque pas l'homme. Tout le monde le sait en Europe, c'est bien connu. Et puis voilà, ils vont bien trouver des gazelles, des trucs à se mettre sous la dent. » Sauf qu'une heure plus tard, il débarque autour de ma tente. Mmh. Et là, toutes mes certitudes fondent comme neige au soleil. Et je me dis, attends, le loup n'attaque pas l'homme. Déjà, ça vient d'où cette théorie fumeuse là ? Qui a dit ça ? Parce que moi, perso, si je n'avais pas mangé depuis 15 jours, un loup, je le mange. Donc lui, il va faire pareil. Sachant que je suis vraiment tout seul, parce que cet avantage, au moment où j'ai posé ma tente en me disant « Génial, c'est la solitude ».
Ça se trouve être un inconvénient.
C'est ça, ça se retourne contre moi. C'est ça. Il n'y a personne pour m'aider et personne à bouffer, parce que quand on est près des Mongols, ils ont des troupeaux. Et un loup préférera toujours un mouton, une chèvre, ou un cheval, ou un yak, qu'un humain. Mais là, il n'y en a pas. Donc, je me retrouve avec ces loups qui commencent à grogner un peu autour de ma tente.
Tu les vois? Enfin, tu sais à quelle distance ils sont ou juste t'es enfermé dans ta tente et t'imagines qu'ils sont peut-être...
Alors, je ne les vois pas, parce qu'il ne faut surtout pas sortir dans ces cas-là.
Il a des réflexes.
T'as eu gros naze, mec, quand même. Et non, je suis dans ma tente et je sais qu'ils sont à peu près à 10-15 mètres. et qui sont en train de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait ? On le bouffe ? On ne bouffe pas ? Comment on fait ? Et donc, je m'habille, parce que quand même, il fait un petit moins 10, moins 10, moins 15 à ce moment-là dehors. Donc je me dis, s'il faut se battre contre des loups, autant pas le faire à poil. Ce serait dommage de mourir de froid en se battant contre des loups. Et donc, je m'habille, je me protège les poignets, les mollets, la nuque, dans la perspective d'une bataille féroce contre des loups. Et tout va bien. Ils finissent par partir. Ils trouvent probablement de la nourriture un petit peu plus saine plus loin.
Je suis presque déçue.
Ouais, je sais.
On va y revenir.
Je sais. La chute de Il me mange un mollet aurait été formidable. Et non, par contre, ils reviennent vers 5 heures du matin. Retour de la chasse. Ils passent à côté et ils relancent un dernier hurlement avant de rejoindre les crêtes.
Qui voulait dire à demain.
C'est ça, parce qu'en fait, donc ça a été ma première nuit avec les loups un petit peu, et il y en a eu beaucoup par la suite, et c'est devenu une peur constante, les loups en Mongolie. D'abord parce qu'à chaque fois que j'allais voir des Mongols, la première question qu'ils me posaient, c'était bon, alors d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là.
Mais là encore une fois, je suis désolée, je reviens sur la langue, mais est-ce que tu t'es devenu à l'aise, est-ce que tu comprenais quand ils te disaient d'où...
Là, je commence à comprendre les questions de base. Ouais.
C'est génial.
Je commence à comprendre d'où tu viens, je sais répondre, je sais dire bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 28 ans, je viens de France. Et donc je commence à pouvoir avoir des débuts de conversation avec eux. Et puis il y a un mot qui revient tout le temps, c'est leur deuxième question, c'est Chon. Ça veut dire le loup. Et grosso modo, comment tu fais avec les loups ? C'est quoi ton truc ? Parce que nous, on a des fusils et ils ne sortent jamais sans fusil en Mongolie. Et donc toi, c'est quoi ton truc ? Moi, je leur dis, bah voilà, j'ai un poignard et puis un bâton et puis ça s'arrête là. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le truc. Ils me disent, mais ça ne va pas trop bien dans ta tête. Et moi, plus ils me disent ça, et plus je commence à me dire que les loups, qui n'étaient pas un souci à la base pour moi, vont commencer à en être un. Jusqu'à ce que je découvre plusieurs centaines de kilomètres plus loin, en traversant un village, qu'on a retrouvé une tête et deux pieds à quelques kilomètres de là, deux Mongols qui se baladaient en mobylette, qui sont tombés en panne d'essence et qui se sont fait attaquer par des loups. Et moi, je me dis à ce moment-là, et attends, alors d'abord, un, je ne savais pas que le loup attaquait l'homme. Deux, il attaque deux hommes d'un coup, en plein jour, et des mecs qui sont plus costauds que moi, parce que les Mongols, quand ils se baladent, ils ont toujours un grand vêtement qui s'appelle le dil.
Un petit peu indigeste, le loup.
Ouais, et puis c'est impressionnant. Normalement, un loup doit être impressionné par la taille de son adversaire. Et un Mongol est clairement plus impressionnant que moi qui débarque, même si j'ai un gros sac. Voilà. Moi, je suis un petit peu handicapé par la taille et le poids de mon sac, donc je me sens assez vite vulnérable dans ce pays, et je sens que les loups vont être un petit souci en plus. Et ça va me poursuivre pendant 3 mois.
Mais alors, du coup, tu vas continuer à avancer avec la peur ou...
Oui, alors je vais continuer à avancer, bien sûr, mais en prenant quelques précautions.
Ouais, tu t'adaptes.
Je m'adapte, j'essaye de les comprendre, j'essaye de comprendre où ils vivent, où ils vont chasser. Assez rapidement, je me rends compte que dans les montagnes, par exemple, ils sont plutôt au niveau des cols. Voilà. Et je marche sur leurs traces en permanence. Donc, je suis tout le temps sur les traces et des loups. Je rencontre les bêtes, les carcasses des bêtes qu'ils ont mangées dans la nuit. Et je me rends compte que vraiment, ils sont là, en fait. Ils sont autour de moi et ils savent que je suis là. Et que donc, le jour où ils vont décider de m'attaquer, il n'y aura probablement pas grand-chose que je pourrais faire. Mais je me prépare. Voilà,
C'est incroyable.
Un jour, je tombe sur un village où je trouve des pétards. Et donc, je me crée une espèce de mini-mitraillette comme ça, que je mets dans ma poche, une dizaine de pétards ensemble avec quelques allumettes. Je m'entraîne à les allumer. Et en 4 secondes, je sais que je peux allumer ça si jamais une meute de loups arrive. Ce sera totalement inutile. Et en plus, je me rendrai compte par la suite que si un loup avait décidé de m'attaquer, je n'aurais pas eu ces 4 secondes.
Ah ouais.
Tout simplement. Ils sont très très forts, c'est bon. Donc voilà, ça aurait été foutu. Mais je suis toujours là pour le raconter. Désolé hein, pour l'échec de l'anecdote, non. Pour la chute. Mais
je suis épatée. Et je me dis, je pense aux Mongols qui te disaient t'es fou. t'as pas inspiré un petit peu leur admiration? Est-ce qu'ils étaient pas un petit peu admiratifs quand même?
Non, je crois qu'ils me prenaient vraiment pour un couillon. Vraiment, je crois qu'ils disaient, mais lui, il passera pas à la fin de son voyage, quoi. Mais cela dit, quand ils me parlaient de leur fusil, tout ça, je leur disais, bah vas-y, donne-moi ton... Enfin, je t'achète ton fusil, moi, si tu veux, vends-le-moi. Et évidemment, ils avaient un fusil, c'était le fusil de la famille, donc jamais ils n'ont accepté. Et j'étais très content de ne pas avoir de fusil, en fait.
Ouais, ça aurait changé un petit peu le...
Ouais, ça aurait changé
le rapport. Alors que là, t'étais vulnérable, t'as essayé de les comprendre, t'aurais peut-être pas fait ce travail-là.
C'est ça.
Moi, j'ai vu Cro-Blanc. Et je voulais savoir si à un moment donné, ça t'était traversé l'esprit de pouvoir les apprivoiser.
Ah ouais, ouais. Non, je me suis fait des délires.
C'est vrai.
Ouais.
Ça oui, me rassure, ça aurait été un rêve.
Mais non, mais bien sûr, aller vivre avec les loups comme ça. Oui. Non, je sais que certains l'ont fait. Je ne comprends pas comment ils ont fait. Mais
je pense que c'est un peu ton travail. Enfin, c'est un peu le travail que tu as fait.
Oui, mais en allant beaucoup plus loin.
Moi, j'ai vu le reportage sur la pieuvre. C'est un petit peu ça qu'il a fait, le gars.
C'est vrai. Bon. La sagesse de la pieuvre.
Oui, j'ai adoré. J'ai pleuré.
Un chef-d'œuvre. Moi aussi, j'ai chialé, évidemment. Non, là, j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Mais j'ai pas réussi à aller plus loin que ça. Si j'avais été vraiment très courageux, je serais monté sur les crêtes et je serais parti à leur rencontre. Là, j'ai fait mon petit chemin en me disant, bon, ben, si je peux en voir un de loin, c'est chouette, mais le voir de près, finalement...
Écoute, t'as survécu. Je crois que c'est déjà une belle victoire.
Voilà.
Est-ce que t'as croisé un... Non, tu t'as pas croisé le regard d'un loup
Si.
Aïe, aïe, aïe.
Si, parce
Alors,
que...
Alors, je vous assure que j'avais pas préparé. Je savais pas.
Au bout de... quelque chose comme 1000-1500 kilomètres de marche dans une vallée après n'avoir croisé personne pendant 5 ou 6 jours, donc vraiment sachant que je faisais 35 kilomètres par jour, donc une grosse distance sans voir aucune yourte, aucun humain, j'ai entendu dans une vallée des bruits d'aigles et juste en dessous des aigles, il y avait un loup blanc absolument magnifique qui était déjà en train de me regarder quand je l'ai vu. Il savait que j'étais là. Et moi, j'aurais jamais vu sans la présence des oiseaux. C'est vraiment eux qui m'ont alerté de sa présence parce qu'il avait une couleur quasiment identique. C'est un espèce de blanc crème, quasiment identique à la couleur du sol à ce moment-là. Donc j'aurais pu passer à 10 mètres de lui, j'aurais rien vu. Et c'est là que j'ai compris que j'étais probablement passé près de loups que je n'avais pas vus.
Et alors, coup de chance, ils n'étaient pas affamés ou finalement...
coup de chance, ils étaient tout seuls.
L'adage n'est pas si faux que ça et ils n'attaquent pas.
Alors, il était tout seul. Moi, j'étais tout seul. Il y a une légende, un petit peu une croyance en Mongolie qui dit que quand on rencontre un loup, d'abord, ça porte chance. Et on rencontre son alter ego, loup. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue en le voyant. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas eu peur de lui. Pourtant, j'avais eu peur d'en croiser un avant, mais là j'ai vraiment pas du tout eu peur de lui, et lui j'ai pas du tout senti d'appréhension non plus. On s'est regardé, ça a duré un bon moment, et puis moi à un moment donné je me suis dit bon allez, je vais te laisser manger tranquille, parce que probablement il était en train de chasser. J'ai continué de marcher le long de la rivière et il a fait pareil. On a marché en parallèle comme ça, mais il était quand même un petit peu loin, il était à 50 ou 100 mètres de moi, mais on a marché pendant une demi-heure en s'arrêtant toutes les deux minutes pour regarder son alter ego. C'était une belle rencontre, c'était un rêve.
Ouais, toi, tu t'imaginais ça, lui, il réfléchissait juste à comment il allait te choper.
C'est ça. Moi, j'espérais quand même, parce qu'à un moment, il a disparu derrière une montagne, j'espérais qu'il ne soit pas parti chercher ses copains. Mais j'ai été soulagé.
Non, je plaisante, en vrai, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est trop beau. Alors, un petit résumé s'impose. T'as perdu ton cheval, tu manques de te faire bouffer par des loups, t'as quitté les rivières, les steppes, où t'arrives ?
Là j'arrive au pied du Hangai, c'est le massif de montagnes qui s'ouvre en plein milieu de la Mongolie, et qui culmine à quelque chose comme 4000 et quelques mètres. Avant de vraiment m'enfoncer dans les montagnes, je découvre une petite ville qui s'appelle Khalkholin, qui est en fait l'ancienne capitale de l'Empire mongol. Donc la plupart des touristes vont dans ce lieu-là. Moi, je passe assez rapidement, ça m'intéresse pas particulièrement, et je m'enfonce dans les montagnes.
Est-ce que ça devient du gâteau pour soi? Ça y est, t'es habitué?
Alors,
ou c'est quand même un obstacle?
Alors, je souffre beaucoup de la nuque. Mon sac me pèse énormément et chaque journée est un petit peu difficile. Je marche quand même une douzaine d'heures par jour avec un sac de 30 kilos. J'essaye d'avoir de moins en moins d'eau, de moins en moins de nourriture, mais ça reste quand même un petit peu lourd. Mais j'avance, je commence à comprendre comment on traverse des montagnes, comment on trouve des cols. Je me plante parfois, mais globalement ça va, ça se passe pas mal. Je fais beaucoup de rencontres, et puis je traverse ce massif de montagnes qui fait environ 1000 km de large, et j'arrive un jour dans une petite ville qui s'appelle Ouliasté. Là-bas, je rencontre un type qui vient me voir dans la rue et qui est le boss d'une organisation humanitaire suédo-mongole. Et il m'invite chez lui à manger, etc. On sympathise. Et je vais finir par donner des cours de Photoshop pendant quelques jours au professeur de cette ONG avant de repartir pour la suite.
Et la suite, c'est le désert de Gobi. C'est bien ça?
C'est le désert de Gobi.
Alors, laisse-moi te dire que je suis un peu perdue, parce que là, on est à l'ouest du pays, on commence à être à l'ouest du pays. Tu nous en parlais tout à l'heure, tout à fait à l'est, quand tu as dû aller en Chine.
Tout à l'heure, on était au sud-est, et en fait, le désert de Gobi forme un arc qui contourne toute la Mongolie, et qui va de l'Altaï, qui descend, qui contourne le massif du Hangai dont je viens de parler, et qui continue ensuite jusqu'en Chine et jusqu'à l'est de la Mongolie. Donc c'est un désert qui est assez immense. Et là, on traverse maintenant une petite partie du désert, une petite qui fait environ 500 kilomètres. Et c'est un désert un petit peu particulier parce qu'il est à l'intérieur, on y trouve la rivière Zafran. Et c'est cette rivière que je vais longer pendant au moins 400 kilomètres.
Et il y a de l'eau dans cette rivière ?
Il y a de l'eau dans cette rivière, il commence à faire froid et il y a même des plaques de glace sur la rivière. Donc elle va être bientôt gelée, mais on n'y est pas encore.
Juste pour visualiser le décor, est-ce que c'est... Moi, quand je visualise la Mongolie, je vois des étendues de... C'est blanc, enfin c'est pas blanc, c'est pas ocre.
C'est crème.
C'est crème. Des étendues crème avec un peu de neige. Est-ce que c'est ce que tu vois?
Alors non. Je vois plein de choses en fait, selon l'heure de la journée. Dans le désert de Gobi, je vais traverser des dunes de sable. Parfois elles s'étendent sur une largeur d'environ 15 km. Au bord de la rivière Zafran. Donc on va avoir cette rivière, de part et d'autre des dunes, vraiment sur 10-15 kilomètres, des dunes qui s'élèvent en altitude. Il y en a qui vont monter jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Et puis au loin, parce qu'on voit très très loin, on aperçoit déjà le massif de l'Altaï. Donc on a la rivière, les dunes et au loin des glaciers.
Là c'est presque trop facile pour toi. Tu sais que tu dois longer la rivière et tu vois la montagne où tu dois te rendre?
Ouais, en termes de direction, c'est super facile. Trop facile, trop facile. Après, je commence à marcher sur du sable. Et avec un sac de 30 kilos, je souffre pas mal. Et en arrivant dans le désert, je me dis que ces histoires de loups, c'est terminé, ils étaient dans les montagnes. Et en fait, je me rends compte que le désert est le royaume des loups et qu'ils sont partout. Donc, toutes les dunes sur lesquelles je marche, je vais trouver des petites traces de la famille loup. Je vois papa loup, maman loup et bébé loup. Ils sont tous là. Et je n'ai qu'une peur, c'est de les trouver après avoir grimpé une dune, quoi. Et de les trouver de l'autre côté de la dune.
Ça t'est arrivé ?
Ça ne m'arrive pas. Heureusement. Par contre, je vais faire des rencontres sympathiques après des dunes, comme ça. Je vais rencontrer un vieux bonhomme qui m'invite à passer la nuit dans sa yourte. Et le lendemain matin, il se réveille à 5h du mat. Et il commence à fumer sa cigarette en regardant les étoiles. Il dit rien. Moi, je suis là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Et à un moment donné, je ne sais pas s'il a vu une étoile briller plus que les autres, mais il se lève, il prend un panier et il part cueillir des baies. Parce que dans le désert de Gobi, il y a également des espèces de petites forêts buissonneuses avec des arbres très piquants sur lesquels on trouve une baie qui s'appelle la Tchatselra. En tout cas, c'est le nom mongol. Je crois que c'est une sorte d'argousier mongol. Et il ramasse son panier d'argousier tous les matins avant que le soleil se lève. Et ce type-là, il va arriver et il va me donner un petit kilo de Tchatselra. C'est des baies qui sont super nourrissantes. Donc, ils vont participer à mon régime alimentaire de qualité. Et donc, il va y avoir des personnes comme lui. Juste après, je vais rencontrer des femmes dans une tente qui vont me recoudre mes chaussures. Parce que ça y est, elles sont mortes. Elles ont fait 1500 km ou plus. Et ça y est, elles sont fichues. Elles vont me les recoudre.
Ils sont avenants quand même. Est-ce qu'il...
Quand même, hein, parce que pour recoudre ces chaussures, il fallait en avoir envie. Hein. Non, elles avaient une odeur absolument affreuse. Moi, j'avais honte. C'est elles qui me l'ont proposé, c'est pas moi qui ai demandé. Et donc, il va y avoir quelques rencontres comme ça et des étendues. Voilà. Celles dont tu parles, les étendues crème qui vont durer, je sais pas, 50 km. Tu te lèves le matin et tu sais déjà où tu vas arriver le soir. Mmh. C'est chiant à mourir. On s'ennuie. Mais il y a certains moments de la journée où ça devient magnifique, même ces petites étendues. Moi, j'ai appelé ces parties-là le désert des buissons rouges. Parce que le matin, à l'aube, quand le soleil se lève, et le soir, quand il se couche, il y a des petits buissons qui sont tout moches la journée, mais qui prennent à ces moments-là des allures magnifiques. Ça devient magique. Et le Gobi, à ce moment-là de la journée, c'est vraiment un lieu magique. Le reste du temps... on peut s'y ennuyer. Voilà, on peut vraiment s'y ennuyer.
Est-ce que tu prends des photos ? Est-ce que tu documentes ? Est-ce que tu écris ? Et comment tu fais pour te souvenir de tout ça ? Est-ce que c'est juste ta mémoire ou est-ce que tu as documenté un petit peu ton...
Alors, je prends quelques photos, quelques vidéos, mais c'est vraiment des souvenirs qui restent ancrés parce qu'il s'est passé des choses tous les jours. Mmh. Là, je vous la fais courte un petit peu, sinon pour 3-4 heures. Mais il y a eu des anecdotes tous les jours. En fait, ces anecdotes sont reliées à des lieux. Donc, je me rappelle quasiment de tous les endroits où, par lesquels je suis passé en Mongolie.
Et petite question que je me posais aussi, parce que je me la pose souvent en me disant « Non mais moi, si j'avais voyagé à cette époque-là, je serais devenue une star ». Est-ce que toi, tu te dis que si tu avais voyagé maintenant, à l'heure des réseaux, est-ce que t'aurais voyagé autrement ou est-ce que t'aurais...
Alors, ça aurait été le contraire. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai voyagé, il y avait déjà pas mal de blogs. La plupart des gens qui partaient en voyage écrivaient déjà des blogs. Et bon, d'abord, moi, en Mongolie, c'était techniquement pas possible parce que je pouvais pas avoir d'ordinateur avec moi. Je n'ai pas eu une prise de courant de tout le séjour, quasiment.
Tu n'avais pas de téléphone. Il t'arrivait quoi que ce soit ?
J'avais un téléphone, mais que j'ai quasiment jamais utilisé. Et j'avais un appareil photo que je rechargeais avec des batteries rechargeables, quoi. Avec un mini panneau solaire, etc. Non, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on fait. Et on peut faire aussi des voyages un peu Instagram, comme ça. Et non, c'est vraiment pas ma philosophie.
C'est vraiment le truc formidable.
Ouais, c'était pas mal. Par exemple, la fin de mon voyage, bon, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais... quand on arrive quelque part, c'est vraiment un moment où d'abord on s'attend à trouver des gens qui t'accueillent, qui disent « Ouais, c'est super !» Ou alors il y a des personnes par téléphone qui vont t'appeler ou des gens qui te suivent.
Tu parles quand tu rentres en France ?
Non, non, vraiment la fin de ma marche.
Ok.
Et là, la fin de ma marche, ça a été quelque chose de très, très anonyme. J'arrive dans une place, qui est la place centrale du village où j'ai décidé d'arrêter mon aventure, et il n'y a personne qui m'attend. Il n'y a personne qui sait que je suis là et je suis un petit peu seul comme un couillon, mais très content, très très heureux de le vivre comme ça. Et en fait, je crois que ça me ressemble un petit peu plus que de partager, même si là c'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais de partager en direct, non.
Je comprends.
Voilà. Je préfère vivre les choses dans l'instant.
Ben je gardais cette question pour la fin, mais du coup là c'est l'occasion. Moi, je ressens ça souvent quand je rentre de voyage. J'ai pas envie de raconter. Quand on me pose des questions, ça m'ennuie presque de raconter. J'ai besoin de le garder un temps pour moi avant de pouvoir en parler. Et c'est complètement paradoxal parce qu'effectivement, on est en train de faire tout ça. Mais... Et tu ressens ça aussi ?
Oui, bah, la preuve, c'est qu'on en parle là, mais une douzaine d'années après ce voyage, j'ai eu besoin de pas mal de temps pour le digérer, pour comprendre tout ce qu'il m'avait apporté, pour même comprendre a posteriori des choses qui me sont arrivées, que je n'avais pas forcément bien compris à ce moment-là. Donc oui, ça a pris du temps. La digestion a été assez longue.
Et est-ce que tu dirais que, évidemment, je sais que tu vas répondre par la positive, mais et je pense que c'était le but de ton voyage en partant. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris à faire des choses à...
Alors, j'ai appris à monter à cheval, brillamment. Non, et cela dit, je suis passé d'un niveau zéro de la cavalerie à un niveau 0.5.
J'ai passé un petit step. Avec toi,
j'ai appris à marcher. Parce que mine de rien...
Ce que tu pensais.
Oui, j'avais déjà commencé à apprendre l'art de la marche au Népal. Parce que ça a l'air de rien comme ça de marcher, on se dit bah oui c'est facile, mais quand on fait 2000 km, ça peut être intéressant de travailler sa marche pour ne pas se blesser, pour ne pas
la posture,
la façon de poser le pied par terre. Il y a tout un truc, la façon de descendre des pentes de montagne. Les Népalais, les Sherpas par exemple, les Sherpas au Népal sont très très forts pour descendre des pentes monstrueuses en claquettes, en portant 60 kilos sur le dos. Ils ont des techniques.
Okay. Voilà. Que tu veux développer ?
Comme tu veux.
Allez.
En fait, il s'agit de tout prendre dans les cuisses. Donc les premiers jours, oui. Ça fait très mal. Mais parce que si on ne le prend pas dans les cuisses, on le prend dans les genoux. Et s'il y a des impacts en descendant, les genoux prennent très très cher. Donc sur la longueur, sur la durée, c'est très difficile de tenir. Alors que quand on amortit tout dans les cuisses, ça fait très mal au début, mais au bout d'un moment, on a des cuisses d'enfer et on a pas mal aux genoux. Surtout. Pareil pour monter des montagnes, il y a des méthodes pour se tenir droit, ne pas se blesser, quoi, ne pas se faire mal. Donc j'ai utilisé ces 2000 km de marche aussi pour apprendre à marcher. Et puis j'ai surtout appris à observer la façon dont je gérais mes peurs. Donc on a parlé de la peur du loup tout à l'heure, mais il y a eu un certain nombre de peurs. Alors ça peut être la peur de la solitude. Par exemple, j'étais convaincu d'être un solitaire. J'étais convaincu que moi, j'aurais pu passer 6 ans tout seul au fond de ma grotte et ça se serait bien passé. Et j'ai découvert en Mongolie que pas du tout. Qu'en réalité, quand on fait 300 km sans croiser un humain, on a vraiment la sensation d'être le dernier humain sur Terre et l'humain manque dans ces cas-là. J'aurais pas imaginé.
C'est quoi le maximum de temps que t'as passé sans voir quelqu'un ?
C'est une semaine. Mais une semaine, quand on reste chez soi, bon, on l'a tous connu pendant le confinement, bon, c'est pas très agréable, mais ça se fait. Mais une semaine, quand on traverse un paysage, ça donne une sensation vraiment que le monde est... qu'il reste plus rien. Ils sont où ces gens ? Et puis parfois, j'avais des vues depuis des cols à 3000 sur vraiment des dizaines et des dizaines de kilomètres autour de moi, et il n'y avait rien, pas un humain. Ça peut être un petit peu inconfortable à un moment donné. Voilà. Et on est très heureux. Moi, je me suis surpris à être très heureux de retrouver des présences humaines, là où je croyais être un solitaire. Donc, j'ai découvert comme ça tout un tas de petites choses sur ma personnalité. Après, j'ai appris aussi beaucoup du froid. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé.
On n'a pas encore parlé du froid.
On n'a pas abordé.
Est-ce que c'est là, dans le désert de Gobi, que tu en as le plus souffert ?
Alors, dans le désert de Gobi, il commence à faire froid. La nuit, il fait moins 20, moins 25. Donc, le matin, quand je me lève, je commence à ressentir les petits picotements du froid.
Ça réveille.
Ça réveille. Mais c'est vraiment dans l'Altaï que les choses sérieuses deviennent.
L'Altaï, c'est une chaîne de montagnes, c'est un massif ?
Oui, l'Altaï, c'est une grande chaîne
de
montagnes.
Une grande chaîne de montagnes.
En Mongolie, elle se situe tout à l'ouest. Et elle contourne le sud-ouest de la Mongolie. Voilà. C'est le sud-ouest de la Mongolie.
C'est à la frontière aussi avec le Kazakhstan.
Avec le Kazakhstan et avec la Chine.
Et avec la Chine.
Voilà, c'est vraiment la chaîne de montagnes frontière entre les trois. Et d'ailleurs, tout à l'ouest de la Mongolie, on retrouve une culture kazakh. C'est-à-dire que même si les gens vivent comme toujours dans des yourtes, etc., ça reste des éleveurs, mais ils parlent kazakh.
Okay.
En tout cas, un bon 80-90% des Mongols parlent kazakh dans cette partie-là de la Mongolie. Et ils sont musulmans et ils ont quelques coutumes plutôt kazakhs. La place de la femme dans la société change un peu dans cette partie-là de la Mongolie. Et on va se retrouver avec des cimetières du coup musulmans, des mosquées dans certains villages, parfois un petit peu plus d'habitations en dur. Je commence dans l'Altaï à retrouver des maisons en dur.
Ok, plus du tout la même culture.
Il reste des points communs. Le nomadisme.
C'est quoi le nomadisme ?
Le nomadisme.
Ah, le nomadisme.
Le nomadisme.
Ok.
Donc il reste éleveur. Voilà, finalement, c'est un petit peu la même vie.
Mais ils ont quand même des maisons en dur, donc ils y reviennent.
Alors, ils n'ont pas tous des maisons en dur, mais elles commencent à apparaître et il y en a de plus en plus. D'ailleurs, un jour, pour la petite anecdote, je suis dans l'Altaï, il fait moins 35, il y a un vent de fou furieux.
Moins 35, ton sac de couchage ne va plus jusqu'à...
Il souffre beaucoup. Et moi avec, et mes pieds. Mais je finis par trouver des petites solutions. Mais non, à moins 35, je commence vraiment à me les cailler. Et puis un jour, je vois au loin un petit village, donc en dur, au pied d'une montagne. Je me dis, ah, super, je vais dormir au chaud ce soir, je vais manger chaud, le rêve. Et puis je traverse une rivière gelée, donc complètement gelée pour le coup, avant d'arriver au village. Je tombe sur la rivière, je glisse, elle est hyper glissante à ce moment-là. Je glisse, je tombe sur le côté et je m'évanouis. Et en me réveillant, donc la tête contre la glace, comme ça, je regarde le village et là, il y a deux trucs qui me choquent. Je me dis, mais tiens, il n'y a pas de chien qui aboie. On n'a pas encore parlé des chiens en Mongolie, mais c'est toute une affaire. Il n'y a pas de chien qui aboie et je ne vois pas de fumée sortir du village. Pas bon. Et je me relève. Et quand j'arrive au village, en fait, il s'agit d'un village fantôme. Donc, il n'y a pas un seul habitant.
Tout le monde a déserté.
Tout le monde a déserté parce qu'en fait, en hiver, même ceux qui habitent dans le dur, ils vont aller dans des endroits où il fait un peu moins froid. Et là, je me trouve dans une vallée qui est particulièrement froide.
Est-ce que tu t'attendais à arriver là-bas et à pouvoir récupérer des forces, récupérer de la nourriture?
C'est ça, un accueil chaleureux.
C'est ça. Bonne soupe.
Ouais. Et au lieu de ça, eh bien, je vais dormir dans une petite maison. Ah oui, parce qu'en plus, ils enlèvent les vitres. Parce qu'ils ont peur des tempêtes de neige, je ne sais pas, mais ils enlèvent les vitres. Donc, je me retrouve à l'intérieur d'une petite maison en croyant dormir au chaud. Et puis, finalement, le vent s'engouffre à l'intérieur. Et le village est flippant. En fait, il y a une dizaine de maisons, on dirait vraiment un village fantôme, quoi. Je me sens très con dans ce village.
Et quand tu dis que tu apprends du froid ?
Le froid, c'est vraiment une affaire de rigueur. Il ne faut pas commettre d'erreur. Si tu commets une erreur, par moins 30, moins 40, tu perds un orteil, tu perds un doigt, tu perds la vie, tu perds en tout cas.
Tu l'as compris tout de suite ?
Tu comprends assez rapidement. Hein. Le froid est très clair sur la question. Donc, il ne faut pas commettre d'erreur. Et pour ne pas commettre d'erreur, par exemple, en traversant une rivière gelée, il y a quelques règles. C'est là que je remercie Mike Horn, qui, dans un de ses bouquins, raconte comment il traverse une rivière gelée. Donc, il y a des petites techniques. Par exemple, tu prends un bâton, tu tapes trois fois. Si, au bout de la troisième, la glace n'a pas cassé, c'est qu'a priori, tu vas passer. Et donc, moi, j'ai passé des journées entières à taper comme ça avec un bâton. Et d'ailleurs, la seule fois où j'ai tapé que deux au lieu de trois, je suis passé au travers.
Voilà.
Je passais à travers la glace. J'ai eu de la chance parce que mon sac m'a retenu, il m'a bloqué. Je me suis retrouvé comme un idiot au-dessus d'une rivière qui continuait de couler en bas. Et voilà. Bon, bah, si tu passes au travers, passes en dessous, c'est fini, quoi. Il y a pas de, c'est game over. Et donc, moi, j'ai réussi à me, à remonter un petit peu, à ramper sur la glace et à rejoindre la berge. Et voilà, typiquement, j'ai commis une erreur. Donc, toute la journée, après avoir tapé 1000 fois avec mon bâton, j'ai commis une erreur. Il faut pas la commettre. Dans le froid, on ne commet pas d'erreur.
Ah ouais, là, en fait, on sent vraiment que le ton a changé. En fait, comme on parle, au début, on se marrait, tu faisais plein de bourdes. Là, on sent que c'est vraiment sérieux. Ça fait combien de temps que tu es parti à ce moment-là ?
À ce moment-là, ça fait à peu près 3 mois que je marche. J'ai dû faire 1800, 1900 kilomètres à pied. Ça fait un petit moment que je mange pas top.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais...
Là, j'ai un espèce de régime à base de soupe chinoise et de boulettes de farine. Donc, je commence à manquer un petit peu d'énergie, je suis fatigué. Et ce que me demandent mes journées commence à devenir assez costaud, même moralement.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu arrives finalement à la fin. T'es presque à la frontière. Ton aventure... se termine ?
Ouais, elle se termine. Il doit me rester quelque chose comme 50, 60 kilomètres. Et ça va être le pire du voyage. Je vais avoir 2-3 jours vraiment difficiles, en mode tempête de neige, moins 40. Je manque de prendre la mauvaise vallée. Si je prends la mauvaise, c'est mal barré pour moi. Je commence à avoir vraiment peur de mourir de froid. Là, je ressens cette peur-là, à ce moment-là. Le soir, quand je mets ma tente dans le vent et dans le froid, je me dis, ça va être un petit peu tendu. Les rivières sont de plus en plus difficiles à traverser. Ouais, j'en chie ma mère.
Est-ce que c'est là que tu te dis, c'est bon, je m'arrête. Est-ce que tu te fixes encore un objectif Alors, dans quel état d'esprit?
Alors, quand j'avais écrit mon projet, mon premier objectif était assez mignon. J'avais prévu de finir tout en haut du mont Ruiten, qui est le plus grand sommet de Mongolie. Il doit culminer à quelque chose comme 4474 mètres. Et là, je me rends compte que pas du tout, en fait. Je
n'ai pas
du tout le niveau pour aller en haut. C'est un peu comme le Mont Blanc, quoi.
Ouais.
Voilà, mais on ne débarque pas sur le Mont Blanc tout seul, sans connaître l'itinéraire, sans rien savoir. Comme un grenat, ça ne marche pas en alpinisme. Et donc, ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine que je sais que je vais m'arrêter dans une petite ville qui s'appelle Bayanolgi et qui est le cœur de la culture kazakh en Mongolie.
Ok. Tu nous racontes ton arrivée ?
Très sobre. Tout le monde s'en fout, évidemment. Personne ne sait ce que je suis en train de faire. Donc, il y a dans toutes les villes en Mongolie une grande place.
Mmh.
Une espèce d'héritage de la culture soviétique. Une grande place centrale. Et donc, ça fait une semaine que je me dis, voilà, quand j'arriverai sur la grande place centrale, ce sera terminé. Et je trouve cette grande place. Il y a une espèce de belle étoile rouge au milieu de la place.
Mmh.
Et quand je la vois, je me dis, ah ouais, c'est là. Oh, c'est bien.
Bien.
Oh, c'est bien.
C'est bien.
Ah ouais, c'est bon. J'ai un endroit pour m'asseoir. Et je suis au top. Et c'est assez étrange, une aventure qui se termine comme ça, un peu. Ça peut paraître un peu mou, un peu seul, ouais.
Mmh.
Mais c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé.
Et là, c'est la fin de ton voyage. Tu prends un avion, tu rentres en France ?
Pas du tout. J'en ai encore pour 2-3 semaines de retour. Je vais prendre un minibus.
Okay.
Je vais galérer à Oulan-Bator pour trouver un visa. Je vais reprendre 3 bus pour arriver jusqu'à Irkoutsk, le Transsibérien, pendant 4 jours.
On retrouve un peu le loser.
Non, mais alors ça, non. Parce que tout marche super bien.
Ok.
Non, un truc de dingue. J'arrive à la gare d'Irkoutsk, le Transsibérien, par un quart d'heure après, j'avais pas prévu de le prendre. Je rentre dedans, 4 jours et demi de Transsibérien, incroyable, ça fera l'objet d'un prochain podcast parce que ce serait trop long. Je finis par refaire du stop, prendre un bateau pour traverser la mer Baltique, traverser l'Allemagne en stop et j'arrive en France.
Et ça, c'était le projet à la base ?
Il n'y avait pas de projet retour à la base.
Il n'y a pas de projet retour. Et est-ce que, enfin, tu vois, à l'époque, je pense, en tout cas moi, je me posais beaucoup moins la question de mon impact sur la planète. Est-ce que toi, c'était déjà dans cette démarche-là de dire « je vais pas rentrer comme ça » ou c'était juste « je vais pas rentrer en avion » ou c'était juste pour te dire « allez, un petit peu plus de fun, ce serait trop facile ».
Mais 3 mois de marche, ça marque. Et passer directement de ça à « je prends un avion et j'arrive, je débarque en France », c'était trop trash. Donc, j'ai improvisé le retour. C'est-à-dire que quand j'arrive à Irkoutsk, je ne sais même pas encore si je vais traverser la Russie, le Kazakhstan, je me laisse toute liberté. Comme le transsibérien passe par là, je le prends, mais ça aurait pu être du stop pendant 3 semaines pour traverser toute la Russie, je ne savais pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, je voulais quelque chose d'un peu long, qui fasse un sas.
Une belle transition.
Ouais, ouais, une transition. Sinon, c'était trop dur pour moi.
Est-ce que c'est un voyage qui a changé ta vie ?
C'est le voyage qui a changé ma vie. Je vous ai pas trop raconté ça, mais quand j'étais dans ma tente le soir et quand je marchais pendant toute cette traversée en Mongolie, j'ai écrit un livre pour enfants que j'ai illustré lors d'un autre voyage. Mmh. Et donc c'est un peu grâce à la Mongolie que je fais mon travail actuel, à savoir auteur et illustrateur d'albums pour enfants.
Et alors, t'as écrit plusieurs livres, notamment autour de cet univers, de la Mongolie. Est-ce que tu y es retourné ? En fait, je te pose la question, mais je sais, mais parce que je veux que tu le dises, c'est génial.
J'y suis retourné il y a environ 5 ans. On m'a invité à donner des cours d'illustration à l'Université d'art et culture d'Oulan-Bator. C'est une espèce d'université où on apprend la danse, le chant, le dessin, la sculpture, un petit peu tout. Et j'ai donné des cours pendant 2 semaines. J'avais une interprète et j'ai adoré cette expérience. C'était dingue.
Et petite consécration aussi.
Des éditeurs présents ont décidé de publier un de mes albums, donc de traduire un album que j'avais déjà publié en France. Donc j'ai dans ma bibliothèque un album de moi en mongol.
En mongol, génial. Est-ce que, je reviens sur le côté explorateur, est-ce que là tu as d'autres projets d'exploration ? Est-ce que tu as envie de refaire des aventures comme ça qui te poussent dans tes retranchements?
Alors, c'était vraiment l'aventure dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie, grandir. Et donc, il me fallait quelque chose d'un petit peu difficile, où j'ai risqué ma vie un nombre incalculable de fois. Maintenant, je suis papa. Et donc, j'ai pas du tout envie de risquer ma vie comme ça. Par contre, je me laisse la petite possibilité de me refaire un voyage en Mongolie dans quelques années avec les filles. J'ai 2 petites filles. Ou quand je serai vieux, pourquoi pas.
Et si tes filles, là, elles te disent « Papa, tu nous as... » Non, pas maintenant, parce que elles sont petites, mais en grandissant, elles te disent « Papa, tu nous as inspiré, je pars sur tes traces, je vais en Mongolie. » Qu'est-ce que tu leur dis ?
No way. Non, je suis prêt trop. Mais c'est une vraie question que je me pose. Comment on peut laisser... une telle liberté à son enfant quand on sait ce qu'il va traverser. J'aurais détesté être mes amis ou ma famille à ce moment-là quand je l'ai fait. Donc non, j'aurais beaucoup...
Heureusement, ils étaient dans l'ignorance totale.
Voilà. Donc si elles me disent qu'elles partent sur mes pas, je leur dis « Ok, je viens avec vous
». Ça promet une belle aventure aussi en famille. Juste quand même, parce que je pense que c'est important d'en parler, je sais que ce voyage continue de t'inspirer. Parce que tu travailles sur quelque chose en ce moment qui parle de la Mongolie. Est-ce que tu veux en dire un tout petit mot ?
Oui, alors c'est un début de projet. Bon, j'ai déjà fait un album jeunesse, comme on l'a dit avant, sur les loups de Mongolie. Et là, je suis en train de travailler sur un projet de bande dessinée avec une illustratrice, une dessinatrice de bande dessinée, qui raconterait tout le voyage, tout mon parcours de la Mongolie. Voilà. Un petit peu de Sibérie peut-être, un petit peu de Muraille de Chine, mais surtout la Mongolie.
Excellent. Dans tous les cas, on mettra le lien de ton site internet et j'espère que ça incitera les gens à venir voir ton travail. Et surtout, J'espère que ça invitera d'autres gros nazes à se jeter dans la gueule du loup. Pas mal ?
Magnifique !
Pas mal.
Magnifique !
Merci beaucoup, beaucoup, Mickaël. Et à très bientôt.
Merci, Suze.